Le château des Carpates. Le comte Franz de Télek, en voyage dans les montagnes des Carpates, dans le nord de l'actuelle Roumanie, se perd dans les ruines d'un château où il est fait prisonnier par son vieil ennemi, le baron Rodolphe de Gortz. Ils ont en effet aimé la même femme, la jeune cantatrice Stilla, morte sur scène avant de pouvoir épouser le comte de Télek. Franz essaie de s'échapper.
Il faut m'enfuir d'ici, se dit-il. Comment ? Dès qu'on rouvrira cette porte, oui, c'est pendant mon sommeil que l'on vient renouveler ses provisions. J'attendrai, je feindrai de dormir. Un soupçon lui vint alors, c'est que l'eau du broc devait renfermer quelques substances soporifiques. S'il avait été plongé dans ce lourd sommeil, dans ce complet anéantissement dont la durée lui échappait, c'était pour avoir bu de cette eau. Eh bien, il n'en boirait plus. Il ne toucherait même pas aux aliments qui avaient été déposés sur cette table. Un des gens du burg ne tarderait pas à entrer. Et bientôt, qu'en savait-il? En ce moment, le soleil montait-il vers le zénith ou s'abaissait-il sur l'horizon? Faisait-il jour ou nuit? Aussi, Franz cherchait-il à surprendre le bruit d'un pas qui se fût approché de l'une ou de l'autre porte. Mais aucun bruit n'arrivant jusqu'à lui. Il rampait le long des murs de la crypte, la tête brûlante, l'œil égaré, l'oreille bourdonnante, la respiration haletante, sous l'oppression d'une atmosphère alourdie, qui se renouvelait à peine à travers le joint des portes. Soudain, à l'angle de l'un des piliers de droite, il sentit un souffle plus frais arriver à ses lèvres. En cet endroit, existait-il donc une ouverture par laquelle pénétrait un peu de l'air du dehors? Oui, il y avait un passage qu'on ne soupçonnait pas, sous l'ombre du pilier. Se glisser entre les deux parois, se diriger vers une assez vague clarté qui semblait venir d'en haut, c'est ce que le jeune comte eût fait en un instant. Là, s'arrondissait une petite cour, large de 5 à 6 pas, dont les murailles s'élevaient d'une centaine de pieds. On eût dit le fond d'un puits qui servait de préau à cette cellule souterraine, et par lequel tombait un peu d'air frais et de clarté. Il devait être environ 5 heures du soir. De là, cette conséquence, c'est que le sommeil de Franz se serait prolongé pendant au moins 40 heures, et il ne douta pas qu'il n'eût été provoqué par une boisson soporifique. Si humide que fût l'air au fond de cette cour, Franz l'aspira à plein poumon et se sentit un peu soulagé. Mais s'il avait espéré qu'une évasion serait possible par ce long tube de pierre, il fut vite détrompé. Tenter de s'élever le long de ces parois, qui ne présentaient aucune saillie, était impraticable. Franz revint à l'intérieur de la crypte. Puisqu'il ne pouvait s'enfuir que par l'une des deux portes, il voulut se rendre compte de l'état dans lequel elle se trouvait. La première porte, par laquelle il était arrivé, était très solide, très épaisse, et devait être maintenue extérieurement par des verrous engagés dans une gage de fer. Donc, inutile d'essayer d'enforcer les vantaux. La seconde porte, derrière laquelle s'était fait entendre la voix de la Stilla, semblait moins bien conservée. Les planches étaient pourries par endroits. Peut-être ne serait-il pas trop difficile de se frayer un passage de ce côté. Oui, c'est par là, se dit Franz, qui avait repris son sang-froid. Mais il n'y avait pas de temps à perdre, car il était probable que quelqu'un entrerait dans la crypte, dès qu'on le supposerait endormi sous l'influence de la boisson somnifère. Le travail marcha plus vite qu'il n'aurait pu l'espérer, la moisissure ayant rongé le bois autour de l'armature métallique qui retenait les verrous contre l'embrasure. Avec son couteau, Franz parvint à en détacher la partie circulaire, opérant presque sans bruit, s'arrêtant parfois, prêtant l'oreille, s'assurant qu'il n'entendait rien au dehors. 3 heures après, les verrous étaient dégagés, et la porte s'ouvrait en grinçant sur ses gonds. Franz regagna alors la petite cour, afin de respirer un air moins étouffant. La cour se trouvait plongée dans une obscurité profonde. Il devait être à peu près 9 heures du soir. Franz rentra pour prendre un peu de nourriture et se désaltérer à l'eau de la vasque, ayant d'abord renversé celle du broc. Puis, fixant son couteau à sa ceinture, il franchit la porte qu'il repoussa derrière lui. Et peut-être, maintenant, allait-il rencontrer l'infortunée Stilla, errant à travers ses galeries souterraines? À cette pensée, son cœur battait à se rompre. Dès qu'il eut fait quelques pas, il heurta une marche. Ainsi qu'il l'avait pensé, là commençait un escalier. Une demi-heure s'écoula sans qu'il eût été arrêté ni par une porte, ni par une grille. Après une halte de quelques minutes, pendant lesquelles il reprit haleine, Franz se remit en marche, quand un obstacle l'arrêta. C'était la paroi d'un mur de briques. Et tâtant à diverses hauteurs, sa main ne rencontra pas la moindre ouverture. Il n'y avait aucune issue de ce côté. Franz ne put retenir un cri. Tout ce qu'il avait conçu d'espoir se brisait contre cet obstacle. Ses genoux fléchirent, ses jambes se dérobèrent. Il tomba le long de la muraille. Mais, au niveau du sol, la paroi présentait une étroite crevasse, dont les briques disjointes adhéraient à peine et s'ébranlaient sous les doigts. « Par là, oui, par là !» s'écria Franz. Et il commençait à enlever les briques une à une, lorsqu'un bruit se fit entendre de l'autre côté. Franz s'arrêta. Le bruit n'avait pas cessé. Et, en même temps, un rayon de lumière arrivait à travers la crevasse. Franz regarda. Là était la vieille chapelle du château. Dans cette chapelle, déserte depuis si longtemps, ouverte aux intempéries du climat des Carpates, un homme venait d'entrer, tenant à la main un fanal, dont la clarté mettait sa face en pleine lumière. Franz reconnut aussitôt cet homme. C'était Orfanik, cet excentrique dont le baron faisait son unique société pendant son séjour dans les grandes villes italiennes. Cet original que l'on voyait passer à travers les rues, gesticulant et se parlant à lui-même. Ce savant incompris, cet inventeur toujours à la poursuite de quelques chimères, et qui mettait certainement ses inventions au service de Rodolphe de Gortz. Si donc Franz avait pu conserver jusque-là quelques doutes sur la présence du baron au château des Carpates, même après l'apparition de la Stilla, ce doute se fut changé en certitude, puisqu'Orfanik était là, devant ses yeux. Qu'avait-il à faire dans cette chapelle en ruine, à cette heure avancée de la nuit? Franz essaya de s'en rendre compte, et voici ce qu'il vit assez distinctement. Orfanik, courbé vers le sol, venait de soulever plusieurs cylindres de fer, auxquels il attachait un fil, qui se déroulait d'une bobine déposée dans un coin de la chapelle. Et telle était l'attention qu'il apportait à ce travail, qu'il n'eut pas même aperçu le jeune comte si celui-ci avait été à même de s'approcher. Ah ! Pourquoi la crevasse que Franz avait entrepris d'élargir n'était-elle pas suffisante pour lui livrer passage? Il serait entré dans la chapelle, il se serait précipité sur Orfanik, il l'aurait obligé à le conduire au donjon. Mais peut-être était-il heureux qu'il fût hors d'état de le faire, car en cas que sa tentative eût échoué, le baron de Gortz lui aurait fait payer de sa vie les secrets qu'il venait de découvrir.
Jules Verne, 1892.